RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France, la 16e étape aujourd'hui entre Moirans en montagne et Berne en Suisse, capitale fédérale de la Confédération helvétique. Nous sommes en Suisse bien installés pour assister et vivre cette 16e étape du Tour de France qui s'était lancée il y a quelques minutes de Moirans en montagne, une étape de transition avant une journée de repos demain et puis évidemment la dernière semaine, les dernières étapes de ce Tour de France qui promettent la grande bagarre, on l'espère évidemment, même si depuis le temps qu'on vous l'annonce la grande bagarre. Pour l'instant, on n'en a pas vu l'ombre de cette bagarre dans le Tour de France, tant Christopher Froome domine de la tête et des épaules ce Tour de France 2016. Ils sont avec moi, ils sont bien là. Toute l'équipe de l'Intégral Tour est à mes côtés, à commencer par Cyril Guimard, qui est bien là-bas dans son petit perchoir suisse. Comment ça va, Cyril ?
Eh bien, ça va très bien. Il fait un petit peu chaud, la chaleur est revenue sur le Tour. On va souffrir de la chaleur, nous, les commentateurs. Mais ça n'est pas grave, c'est pas nous qui faisons la course.
Oui, en fait, nous on est un peu à l'abri des arbres ici dans cette jolie allée de Berne, juste à côté du stade de Suisse. Mais j'imagine que sur la route du Tour de France, la chaleur est effectivement présente. Aujourd'hui, on va retrouver la moto RMC avec Marco évidemment au guidon et notre ami Georges qui lui va commenter cette course. Un peu de chaleur. Bonjour messieurs.
Salut Christophe et bonjour à tous. Oui, il faisait chaud hier déjà, il fait chaud encore aujourd'hui sur les routes du département du Jura. Pour l'instant, route ensoleillée, 30 degrés pratiquement sur les routes actuellement. On s'attend à ce que la température augmente encore un petit peu. Il fait tellement chaud que peut-être ça a poussé les coureurs à aller très vite vers l'arrivée aujourd'hui. C'est aller vite dans la première heure de course. 49,5 km parcourus sur la première heure par la tête de course avec des coureurs qu'on connaît bien. On va détailler ça dans quelques instants. Mais pour l'instant, c'est parti très très vite sur les chaudes routes du Tour de France.
Exactement. 49 km parcourus dans la première heure. C'est vrai que c'est une longue étape aujourd'hui qui attend les coureurs. Plus de 200 km à parcourir. 208 km très exactement. Et l'arrivée était programmée aux alentours de 17h30, entre 17h30 et 18h, mais effectivement, si ça va à cette vitesse, ça va arriver beaucoup plus vite. Fred Adam est également à mes côtés, comme tous les jours. Salut Fred.
Bonjour à tous, bonjour.
Allez, on va faire un premier point de cette course, parce que, comme le disait Georges, c'est parti très vite en direction de la Suisse. Pour l'instant, nous sommes encore sur le territoire français, et les coureurs vont ensuite entrer sur le territoire helvétique dans quelques minutes. Le top course.
Avec effectivement 50 km parcourus, cela veut dire qu'il en reste tout de même 159 avant l'arrivée ici à Berne, en Suisse. On a franchi la frontière tout à l'heure, nous les suiveurs, les commentateurs depuis la ligne d'arrivée, mais la course est toujours en France. Georges en parlait, les routes du Jura, les vertes mais ensoleillées routes du Jura auxquelles succéderont les routes du département du Doubs avant de franchir la frontière aux Verrières de Joux, au sud-est de Pontarlier. Deux coureurs sont en tête et deux coureurs de la même formation. Ce sont les deux coéquipiers de la formation Etix Quickstep. Tony Martin, le triple champion du monde du contre-la-montre, l'Allemand âgé de 31 ans, solide rouleur qui trouvera sans doute aujourd'hui un terrain d'expression idéal. Les routes ne sont pas très pentues et on évolue en permanence entre 500 et 900 mètres d'altitude. Étape vallonnée au côté de Tony Martin, écoutez bien la présence d'un certain Julien Alaphilippe, le jeune coureur français coéquipier de Tony Martin qui est en train de faire de la patinette derrière la mobilette. Tony Martin, il a trouvé le bon compagnon d'échappée, mais à deux ce sera dur tout de même de résister pendant plus de 200 km. 5 minutes d'avance pour ce duo tête au dernier pointage. Il y a des coureurs en contre-attaque avec notamment Timo Rosen de l'équipe hollandaise Lotto Jumbo, Lawson Craddock un américain, Nicolas Hédet le coureur de l'équipe Cofidis le français et Vegard Breen. Des coureurs qui sont intercalés et qui ont du mal à rentrer sur le duo tête. On n'amuse pas le terrain côté Tony Martin et Julien Alaphilippe. Pour l'instant, le peloton laisse faire.
Et on demandera à Cyril Guimard ce qu'il pense dans quelques instants de cette nouvelle attaque de Julien Alaphilippe qui hier est passé tout près de la victoire d'étape. Mais il a été victime, on vous le rappelle, d'un incident mécanique, un problème de dérailleur qui l'a empêché d'aller décrocher sa première victoire d'étape sur le Tour. Il était tellement frustré aujourd'hui qu'il a donc tenté une nouvelle fois aujourd'hui de s'élancer et de lâcher le peloton. On posera la question dans quelques minutes. minutes à Cyril Guimard. Journée particulière évidemment sur le Tour de France comme aux quatre coins du territoire, avec cette minute de silence qui a donc été respectée partout à midi, même sur la route du Tour. Le peloton qui ne s'était pas encore élancé tout à l'heure à midi, lorsque la minute de silence a été respectée un peu partout. Georges, tu étais au départ de la course, comment ça s'est passé?
Au départ à Moirans en montagne, effectivement, où l'hommage national a également été respecté sur le podium signature, donc à midi, le directeur du Tour de France Christian Prudhomme et les membres de l'organisation. Il y avait notamment le quintuple vainqueur du Tour Bernard Hinault qui était là avec brassard noir sur le bras droit. Ils ont été accompagnés dans cette minute de silence par plusieurs coureurs français qui sont venus sur le podium se recueillir. Le maillot bleu blanc-rouge de champion de France d'Arthur Vichot était là. Il y avait trois coureurs présents pour représentant à chaque fois les équipes françaises. Il y avait Jérémy Roy qui était là pour l'FDJ notamment, Thomas Voeckler pour l'équipe Direct Energy, Alexis Vuillermoz, Romain Bardet, Samuel Dumoulin pour la formation AG2R La Mondiale. Les managers et directeurs sportifs Marc Madio, Vincent Lavenu étaient présents, nombreux donc sur ce podium à midi tout à l'heure en silence pour respecter cette minute de silence, ce deuil national, sobriété et dignité encore aujourd'hui. Ce sont les mots qui sont répétés depuis trois jours maintenant par le directeur du Tour de France à propos de la fête endeuillée forcément du Tour de France depuis trois jours.
Très bien, minute de silence qui a également été respectée ici à l'arrivée à Berne, où toutes les équipes techniques et les commentateurs se trouvent, et tout le monde évidemment. Elle a aussi respecté cette minute de silence, hommage national donc aux victimes de l'attentat de Nice. 14h14, on va s'intéresser à la course. Cyril Guimard, je le disais à quelques instants, hier soir tu t'étais un petit peu emporté contre la fougue de Julian Alaphilippe qui avait tenté de lâcher tout le monde dans la descente du col du Grand Colombier avant d'être victime d'un incident mécanique. La fougue de ce Alaphilippe qui ne se dément pas encore une fois aujourd'hui, il a décidé de partir avec l'un de ses équipiers. Alors est-ce que c'est une tentative folle, une tentative vaine, ou est-ce qu'ils ont une chance d'aller jusqu'au bout? Qu'est-ce que tu en dis, Cyril?
Eh bien, d'abord, je voudrais dire que ma colère d'hier était tout à fait justifiée et même partagée par le manager de son équipe. On a pu l'entendre.
On l'écoutera tout à l'heure, oui.
Les sons que vous pouvez avoir. Donc, je pense qu'elle était tout à fait légitime, même si je ne suis pas le patron mais de Alaphilippe. Mais je pense que hier, il a gâché une occasion extraordinaire de remporter sa première victoire d'étape sur le Tour de France, car je suis persuadé qu'il en gagnera des étapes sur le Tour, mais qu'il se calme de façon à pouvoir bien gérer ses efforts et surtout avoir un sens stratégique un peu plus pointu. Apparemment, les oreillettes ont mal fonctionné. Aujourd'hui, écoutez, moi je vais attendre un petit peu avant de porter un vrai jugement. J'aurais presque envie de dire que cette réaction est saine d'un point de vue, moral. Est-ce qu'elle est justifiée au lendemain d'un échec? Est-ce que c'est pas uniquement une forme de rage, de revanche qui lui fait attaquer dès le départ? Ou est-ce que c'est une stratégie d'équipe, puisqu'ils sont sortis à deux, donc c'est pas non plus par hasard? Alors est-ce que c'est lui qui a décidé, ou est-ce que c'est les directeurs sportifs de son équipe qui ont décidé de tenter un coup de poker avec Tony Martin, qui n'est quand même pas n'importe qui, et Julian Alaphilippe? Il faut attendre, voir. Là, en l'occurrence, c'est le peloton qui décide. S'ils vont au bout, on dira que ça a été l'attaque géniale. S'ils y vont pas, on dira qu'ils ont fait preuve de panache.
Et voilà, le panache, on sait que c'est pas vraiment ce que tu préfères. En tous les cas,
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La 16e étape de la grande boucle, au programme du peloton aujourd'hui. 208 km entre Moirans en montagne et Berne en Suisse. Nous avons déjà parcouru pas mal de kilomètres, mais il en reste pas mal encore. 136 à parcourir. On va faire un nouveau point sur la course, Fred, car l'avance des deux hommes de tête, dont le Français Julian Alaphilippe, continue de monter tout doucettement.
Oui, 5 minutes 10 d'avance pour le duo de l'équipe Etix Quick Step. Ils sont deux coéquipiers à être sortis du peloton. peloton peu après le départ de Moiran en montagne sur les routes jurassiennes tout à l'heure. Le Jura baigné de soleil aujourd'hui, il n'y aura pas un nuage entre Moiran en montagne et Berne. Berne, la capitale de la Suisse, la capitale fédérale et surtout la ville natale d'un certain Fabian Cancellara. On aura l'occasion d'en reparler, le Spartacus suisse qui accomplit son dernier Tour de France cette année à 35 ans et qui sera accueilli tout à l'heure en grande pompe par ses concitoyens et par les habitants de la ville de Berne. Il vit toujours dans les environs et nul doute qu'il a coché cette étape. Lui, le solide coureur de l'équipe Trek Segafredo, deux coéquipiers de l'équipe Etix Quickstep à l'avant et qui n'attendent pas la concurrence. Il s'agit de Tony Martin, l'Allemand, et Julien Alaphilippe, son jeune coéquipier français, échappé hier en direction de Culoz via le Grand Colombier. Derrière, on a une contre-attaque de quatre coureurs, le français Nicolas Hedet, l'américain Lawson Craddock, le norvégien Vegard Breen et un hollandais Timo Rosen. Ces quatre-là ont beaucoup de mal à revenir sur le duo tête. Dernier pointage, 1 minute 15 de retard pour ces quatre-là qui n'amusent pas le terrain. L'avance de Martin et Alaphilippe sur le peloton est-elle de 5 minutes 15. On est à 135 km de l'arrivée.
Alors on a beaucoup de temps aujourd'hui avant l'arrivée de cette 16e étape, donc on va avoir le temps de faire toutes nos rubriques. Donc n'hésitez pas, venez nous donner le nom de l'épisode du jour, le titre de cette étape. N'hésitez pas, les jeux de mots sont évidemment les bienvenus et je citerai les meilleures propositions à l'antenne dans quelques minutes. Il y a pas mal de questions également sur le hashtag RMC Live. Thierry Kiki qui nous dit: est l'arrivée compliquée à Berne? On en parle, mais oui, on va en parler évidemment, mais là encore on a encore un petit peu de temps avant de parler de cette arrivée qui est assez mouvementée. On l'a pu la reconnaître avec Fred et Cyril. Et puis l'Albini Sart nous dit: ça va être aussi chiant que les étapes précédentes aujourd'hui ou ça va s'animer un peu? Ben ça, bon monsieur, on verra ça aussi dans quelques minutes. A priori, ça sera compliqué pour que ça s'anime un peu, Fred. Hein.
Oui, tout va dépendre de ce qui se passe avec Julien Alaphilippe, parce que ce coureur a l'air de vouloir nous réserver des surprises jour après jour. On rappelle qu'à 24 ans, le coureur originaire de Saint-Amand-Montrond, installé à Montluçon, découvre le Tour de France et apparemment il a bel et bien demandé à son coéquipier Tony Martin de faire le début d'étape, comme disent les coureurs. C'est l'Allemand de l'équipe Etix Quickstep qui emmène dans sa roue le jeune coureur français. Lui qui hier a eu une réaction un peu de chien fou alors qu'il était en tête dans la descente du Grand Colombier à 35 km de l'arrivée. Incident mécanique, obligé de se mettre sur la droite de la route, puis retour sur des contre-attaquants, attaque de Julien Alaphilippe à nouveau, un chien fou qui assure le spectacle mais qui du coup est passé à côté de la gagne hier, cinquième de l'étape, une étape remportée, tu le disais, par le Colombien Pantano. Il ne prend pas un seul relais, Julien Alaphilippe à l'avant, et quelque chose nous dit que la deuxième partie de l'étape sera toute pour Alaphilippe. Alaphilippe qui a l'air de tirer la langue un petit peu dans la roue du Panzer, le Panzer allemand, on le rappelle, triple champion du monde du contre-la-montre, l'un des tout meilleurs rouleurs du peloton, qui manifestement est en train de se sacrifier au profit de son jeune coéquipier français, a confirmé quand même cette tactique et a en vérifié les bienfaits, parce qu'il reste 134 km à parcourir. Et Tony Martin adopte la position du contre-la-montre derrière. Ça a beaucoup de mal à revenir.
Et à rester dans la roue.
Le pari du jour, il est là. Est-ce que l'équipe Quickstep n'est pas en train de se brûler les ailes avec cette tactique? Est-ce que cette tactique n'est pas carrément suicidaire? On aura bien l'occasion d'en discuter. Effectivement, cette journée sera longue, mais les paysages sont sublimes. C'est une journée à faire du vélo dans ces paysages si doux, si verts du Jura et du Doubs, justement, avant l'arrivée à Berne. On aura l'occasion de reparler du final très 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 tourmenté ici dans la capitale suisse, avec des pavés, avec des côtes et des descentes idéales pour un certain Fabian Cancellara, évidemment.
Tiens, Rico sur le hashtag RMC Live, c'est un petit message à destination de Cyril Guimard. Rico qui est un éternel défenseur des coureurs français, qui leur trouve toutes les excuses, et on le comprend, hein, il faut être patriote aussi sur les routes du Tour. Rico nous dit: je rêverais de voir Alaphilippe rabattre le caquet de Monsieur Guimard. Voilà Monsieur Guimard, Vous êtes prévenu.
Ben hein? Je l'espère bien. Non, mais il faut pas se méprendre. C'est pas parce que on analyse des erreurs qu'on veut du mal à un coureur. Maintenant, s'il faut dire que du bien À ce moment-là, on n'a pas notre rôle ici. Hein.
Ben oui, bien sûr. Il faut critiquer de temps en temps quand les choses se passent pas bien.
Cyril, tu as réagi comme un directeur sportif hier pendant le direct de l'étape, quand tu as vu Julien Alaphilippe perdre ses nerfs un petit peu et attaquer en dépit du bon sens dans le final, alors qu'il aurait peut-être eu une chance de revenir sur la tête de course occupée par Pantano et le Polonais Rafał Majka. Est-ce que tu as été confronté, après les avoir recrutés bien sûr dans tes équipes, à des coureurs jeunes, hyper talentueux et qui avaient ce caractère de chien fou, indomptable, et comment ont évolué ces relations, parce que des coureurs de caractère, il en faut. Est-ce qu'il a fallu faire preuve de diplomatie, de pédagogie souvent avec ces coureurs qui pour la plupart sont des hyper talentueux, en plus d'être des hyper actifs et des hyper indépendants?
Oui, bah, j'en ai eu un que vous connaissez bien.
Lucho?
Bah oui, bien sûr.
Luc Leblanc, évidemment.
Luc Leblanc, qui à certains moments faisait un peu tout et n'importe quoi. Et ensuite, bon, il s'est un petit peu assagi. Mais en fait, j'en ai pas eu énormément. Parce que nous n'avions pas d'oreillettes, mais nous avions beaucoup non pas de débriefing, mais beaucoup de réunions ensemble où on parlait de stratégie générale pour revenir à des circonstances de course bien précises. C'est-à-dire que on pouvait débriefer sur la course des adversaires, sur la nôtre, pour que les coureurs, à un moment, savaient ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Mmh. Le nombre de fois où je voyais des erreurs qui commençaient à se faire et que je dis il faut que j'intervienne, pratiquement avant que je sois arrivé, la chose avait été rectifiée. Mmh. Et un de ceux qui sentait le mieux les choses, il y avait entre autres Laurent Fignon. Et il y en a eu un autre que vous connaissez bien aussi, c'est Bernard Hinault qu'il a fallu canaliser. Et le canaliser, c'était pas toujours facile. Il fallait pas le canaliser seulement en course, fallait aussi essayer de le canaliser, beaucoup plus difficile au niveau de l'entraînement. Mais on arrive toujours à faire en sorte que le groupe fonctionne bien à partir du moment où, à côté du coureur qui va faire une erreur, il y en a un autre qui va dire hop, bouge pas. Ou si on veut faire quelque chose, non attends, on appelle Guimard. Mmh. Donc ce qui fait qu'on faisait très peu d'accord, de fautes. Par exemple, le genre de situation qu'on a pu voir dans la montée de Chalet-Reynard avec Valverde qui sort, jamais j'ai un coureur qui a fait ça. Jamais, parce qu'ils savaient très bien qu'en faisant ça, non seulement ils servaient à rien, mais ils se grillaient leurs propres ailes. Mais en plus, ils servaient à rien. Et que s'ils le faisaient, ils savaient très bien qu'ils allaient se prendre une soufflante après.
Oui. Je trouve qu'il y a plus d'erreurs stratégiques en course dans le cyclisme actuel qu'il y en avait auparavant, Cyril, ou alors c'est à peu près la même chose.
Bah, moi, je suis mal placé parce que j'avais vraiment des coureurs qui était bien, qui sentait la course, avec lequel on travaillait ensemble. Vous savez, au début de saison, on restait un mois ensemble.
Oui, je te coupe un instant parce que Georges Quirino sur la moto RMC est au contact justement d'un directeur sportif.
Exactement, avec David Ebramati, directeur sportif de l'équipe Etix Quickstep. Bonjour David, on revoit Julien Alaphilippe aujourd'hui à l'avant avec Tony Martin. Là. Il voulait retenter quelque chose après l'épisode d'hier.
Bah oui, hier il n'a pas eu de chance, il a eu un problème avec les vélos, c'est arrivé tout de suite avec la voiture, il a changé les vélos, mais les coureurs avant il a déjà des différences. Aujourd'hui l'idée c'est de partir dans l'échappée, d'un grand échappée. Les deux c'est ensemble, Tony c'est très fort, il ne veut pas attendre derrière, il veut prouver. C'est un peu de discussion, tout le monde l'a vu, mais c'est ici. C'est deux grands coureurs il n'a pas beaucoup de chance, mais maintenant c'est ici, c'est 5 minutes 45 et terminer la discussion et il reste ici.
David, qu'est-ce qui s'est passé exactement hier? C'est Julien qui avait décidé d'attaquer dans la descente ou vous en aviez parlé avec lui avant?
Oui, moi il a dit à lui d'attaquer avant la sommet, d'éprouver et de prendre les deux dans les, dans, dans, dans la descente et après il n'a pas d'informations et il sait après que lui c'est avant tout seul. Je pense que c'est un grand coureur, c'est jeune et il doit prouver, quand il a la jambe, il doit prouver de faire tout le maximum.
Merci beaucoup David Ebramati, directeur sportif de l'équipe ATX Quickstep. Donc derrière ces deux coureurs, vous avez bien entendu, hein, c'est moi qui ai demandé à lui d'attaquer dans la descente hier dans le Grand Colombier.
Voilà, bah on a la réponse à l'autre question, Cyril.
Non, c'est langue de bois. Hein. Pour aujourd'hui, oui, on a la réponse de ce qu'il va faire.
Il dit c'est moi qui lui ai dit d'attaquer hier dans la descente. Enfin, j'ai cru comprendre.
Non, il a dit de non, il va donner l'autorisation
à Louis
de sortir pour revenir sur le les deux hommes de tête et en fait il pensait pas qu'il allait les chercher en haut et qu'il faisait la descente pour rentrer, sauf que quand il est arrivé il les a rejoints et tout de suite il a attaqué. Mais où je suis pas d'accord, parce que c'est un manque d'honnêteté, c'est de dire il a pas eu de chance. La chance, la chance de gagner l'étape, c'était de bien courir, c'est pas de mal courir.
Non mais il parlait de son problème de dérailleur là.
L'incident mécanique, il arrive jamais s'il reste tranquillement dans le groupe des quatre.
Mais il paraît que d'autres ont été victimes d'un incident mécanique.
Mais c'est pas parce que d'autres ont eu. Non mais là on cherche des excuses.
Mais
c'est
pas les garçons qui n'étaient pas dans l'échappée, Cyril.
Oui, mais c'est pas parce que d'autres ont eu des problèmes. Enfin, on n'en a pas vu un seul s'arrêter à part lui.
Apparemment, Dan Martin a eu un problème de chaîne et comme par hasard, c'est dans la même équipe que ça se passe. C'est chez ATX.
Donc c'est pas un problème de malchance, c'est que d'abord on court mal. Si il est tranquillement avec le groupe des 4, il tourne. Il n'est pas obligatoirement sur le 11 dents, il est peut-être sur le 14, donc le problème ne se pose pas à ce moment-là. Mais on ne peut pas dire malchance quand on fait des fautes. C'est d'abord les fautes qui peuvent faire qu'après vous allez avoir des problèmes, ça a été le cas. Mais une fois que le problème a été résolu, il a continué à faire des fautes. Et là, c'est pas de la malchance.
C'est-à-dire, une fois qu'il a réussi à réparer son vélo, il est revenu sur un groupe intercalé. Il a flingué ce groupe intercalé alors qu'il aurait dû s'arranger avec eux pour tenter de revenir sur les hommes de tête. C'est ça.
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, à partir de ce moment-là, ne parlons pas de faute. Il y a un incident de course. Puis là, on pouvait pas, comme Froome, le remettre devant. Mais on aurait peut-être dû, puisque c'est la route qui avait provoqué ça, apparemment. Pour faire une parenthèse. Mais il fait toutes les erreurs que l'on doit faire pour ne pas gagner. Donc ne parlons pas de malchance. Je suis désolé. J'ai du mal à supporter ça. Je suis désolé, je suis allergique à ce genre de discours.
Ok, on a compris. Il est toujours énervé le druide. Hein. Ça s'est pas passé malgré
j'ai
la
j'ai problème d'énergie et d'allergie, donc j'éternue.
C'est bon signe. C'est qu'il est toujours là et on est en début de troisième semaine. Donc il ne pioche pas.
Il ne pioche pas.
Il nous réserve une fin de Tour de France du feu de Dieu, a priori.
Mais comme d'habitude,
bien sûr. Mais c'était l'homme des troisièmes semaines. Il y a un peu de mal à démarrer, à rentrer dans le truc. Le prologue, c'est pas son truc. Mais en revanche, dès que ça commence à monter et dès que le soleil revient, il est au top, notre druide. Fred, on va faire un tout petit point sur la course. Nous sommes à 125 km de l'arrivée à Berne, autant dire encore assez loin, mais l'avance continue de se creuser en tête, entre la tête et le peloton maillot jaune.
Oui, avec Tony Martin, le Panzer allemand, triple champion du monde du contre-la-montre, très très bon rouleur de l'équipe ATX Quickstep, qui est toujours en compagnie de son coéquipier français Julien Alaphilippe, et ces deux-là ne se relèvent pas du tout. Ils se relaient même, puisque Julien Alaphilippe a passé ses premiers relais il y a quelques instants. Il souffre, Julien Alaphilippe, pour soulager Tony Martin. Ce ne sont pas les mêmes gabarits et ce ne sont pas les mêmes type de coureur, ces deux coureurs qui creusent sur une contre-attaque qui pourtant tente de revenir, une contre-attaque composée de 4 coureurs, 4 contre 2, ça ne leur suffit pas aux contre-attaquants, ils devraient en mettre davantage, ils devraient avoir du renfort pour rentrer, ils ne parviennent pas, Timo Rosen, Lawson Craddock, Nicolas Hédé et Vegard Brin ne parviennent pas à revenir sur le duo tête, 2 minutes 50 d'avance pour les deux hommes de tête Alaphilippe et Martin sur cette contre-attaque, l'avance du duo tête sur le peloton est désormais de 6 minutes. On est à 125 km de l'arrivée ici à Berne.
Voilà, c'est un contre-la-montre de 200 km que livre aujourd'hui Tony Martin avec dans sa roue son coéquipier Julien Alaphilippe. Iront-ils jusqu'au bout? Eh bien, c'est tout l'enjeu de cette 16e étape. On se quitte quelques instants et on revient sur la route du Tour pour les 124 derniers kilomètres. A tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
France baignée de soleil aujourd'hui dans l'est de la France avant que le peloton ne passe la frontière pour un petit détour de deux jours en Suisse. Vous savez, demain, le peloton fera journée de repos, fera escale à Berne avant de repartir. Oui, trois jours. Donc, du coup, l'arrivée aujourd'hui, la journée de repos demain et le départ après-demain en direction de Finot et Mosson. Après-demain, non, c'est, Fred?
Finot et Mosson.
Finot.
Finot. On avait révisé pourtant oui, dans la vrai, voiture,
Finot,
Chris.
Finot et Mosson. Qui sera l'une des étapes clé et on l'espère de ce Tour de France avec la grande bagarre pour arriver au barrage de Finot et Mosson. Ça, ce sera un grand moment, on l'espère évidemment, arrivée inédite, tout comme les celles du jour, puisque jamais le peloton du Tour de France n'est venu ici à Berne, la capitale fédérale de la Suisse. 121 km à parcourir et l'avance stabilisée entre les deux hommes de tête et le peloton maillot jaune, même s'il y a des garçons en chasse patate entre les deux hommes de tête et le peloton, Fred, le top course.
121 km et pas de top course, mais deux coureurs à l'avant, effectivement. Le Panzer, le char d'assaut Tony Martin, le coureur allemand de l'équipe Etix Quickstep, accompagné de son copain de la formation belge Etix Quickstep, donc Julien Alaphilippe, le jeune français âgé de 24 ans. Ces deux-là ouvrent la route depuis près de 80 km maintenant. Il compte 5 minutes 55 d'avance sur le peloton et toujours près de 3 minutes sur un quatuor en contre-attaque qui ne parvient pas à revenir. Le Hollandais Rosen, l'Américain Craddock, le Français Eden et le Norvégien Brain galèrent pour revenir sur la tête de course avec toujours Tony Martin à l'ouvrage.
Et une échappée au profil un peu particulier aujourd'hui. Habituellement, vous avez des coureurs d'équipes différentes qui prennent les relais à tour de rôle, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, Georges, sur la moto RMC avec une physionomie quasiment inchangée depuis de nombreux kilomètres maintenant, c'est-à-dire Tony Martin qui est un formidable rouleur. On le rappelle, trois fois champion du monde du chrono. Et derrière lui, Julien Alaphilippe qui profite évidemment de l'aspiration et de la protection de son rouleur devant.
Exactement, c'est assez incroyable là, de les suivre en moto derrière. On a vraiment l'impression d'être sur un contre-la-montre. Il va peut-être falloir prévenir Tony Martin que ça dure 209 km aujourd'hui. L'Allemand qui reste toujours devant son collègue Julien Alaphilippe, qui ne le laisse pas prendre de relais. Il a même la position vraiment du contre-la-montre. Tony Martin avec les coudes au centre du guidon. Il a même un casque qui ressemble un peu à un casque de contre-la-montre, un peu lisse, un peu long comme ça. Le coureur allemand qui nous emmène à des vitesses assez impressionnantes. On était à un peu plus de 60 km/h tout à l'heure sur le plat derrière eux. On a vu Julien Alaphilippe effectivement qui tournait un petit peu, qui tirait un peu la langue. Lui, il a les mains en bas du guidon et leur directeur sportif qu'on a écouté il y a quelques instants, David Ebramati, le directeur sportif de l'équipe Quickstep, qui est venu qui a parlé avec eux, qui a même un peu rigolé avec les deux coureurs de se retrouver tout seul comme ça dans cette situation. Il leur a donné, c'était le supermarché là, David Ebramati qui arrive à côté d'eux, il leur a donné 4-5 bidons, beaucoup de gel pour se nourrir parce qu'il va falloir se nourrir un peu. Et tiens, petit événement, Christophe, Julien Alaphilippe qui est en train de prendre un relais à Tony Martin qui est en danseuse derrière lui, donc il coopère les deux copains à l'avant pour ouvrir la route ici dans le département ensoleillé du Doubs, dans un décor somptueux. C'est vert autour de nous. On est passé à côté du lac de Saint-Point il y a quelques instants pour les deux hommes de tête qui on va pas dire qu'ils ont le temps d'apprécier le paysage parce que ça travaille dur devant quand même.
Évidemment, il y aura d'autres lacs à franchir tout à l'heure, notamment le lac de Neuchâtel qu'on a pu reconnaître tout à l'heure. C'est vrai que les paysages sont superbes tout au long de cette étape. En plus, le beau temps est de la partie et ça évidemment arrange les choses. Cyril, est-ce qu'on peut tenir comme ça 200 km devant en laissant finalement très peu de place à son coéquipier pour Tony Martin? C'est un immense contre-la-montre. Alors il y a eu de grands contre-la-montre dans l'histoire du Tour de France, mais pas de 200 km quand même, hein.
200 km je ne connais pas. Il y a eu jusqu'à 150 km
jusqu'à 150 bandes
quand
même.
Oui, sur le Tour de France d'ailleurs, dans les Tours de France d'après-guerre, des contre-la-montre de 80 km il y en a également eu, 75 km également, et ça c'était le Tour 78, et c'est là d'ailleurs où Bernard Hinault avait construit enfin tout du moins avait finalisé sa victoire dans le Tour 78, ça devait être Metz-Nancy. où il avait rejoint Agostinho pendant ce contre-la-montre qui était parti 4 minutes devant lui. Depuis, on a rétréci beaucoup les contre-la-montre pour arriver à avoir du mal à dépasser 40 kilomètres. Et la plupart du temps, on est même en dessous. Et je parle du Tour de France. Et rappelez-vous, l'an dernier, on a eu que quelques kilomètres de contre-la-montre, c'est tout. Je crois que on a dû avoir 11 ou 12 l'an dernier. Mais là, si vous prenez Tony Martin, vous savez, quand deux coureurs sont partis comme ça, ils roulent maintenant à leur rythme à eux, ils sont sur des intensités où ils peuvent durer des heures. Ce qu'on va appeler la critique basse, une endurance qui est au-dessus de ce qu'on peut appeler l'endurance fondamentale. Et vous savez que Tony Martin a déjà réussi le coup de gagner une étape de cette façon-là, en partant de très très loin. C'est le jour où d'ailleurs ce qui avait permis à Tony Galopin de prendre le maillot jaune, et on pensait même qu'il allait se faire rejoindre dans le final. Au contraire de se faire rejoindre, c'est presque lui qui creusait dans les 15 derniers kilomètres. C'est une machine à pédaler. Lorsqu'il est sur cette filière énergétique, effectivement, il peut durer des heures. Est-ce qu'Alaphilippe a le même volume, à cette même intensité? Ça n'est pas évident. Mais de toute façon, si vous regardez la physionomie de la course, ils sont quand même relativement hauts en intensité parce que le groupe de 4 ne peut pas revenir.
Et le peloton, les équipes de sprinteurs, ne réduit pas l'écart. Hein.
Oui, mais le peloton va les laisser à 5 minutes. Qu'à 50 km de l'arrivée, les 5 minutes, quand d'autres équipes vont venir rouler. Pour l'instant, le peloton roule à des vitesses, j'ai presque envie de dire, à la même vitesse que les deux hommes de tête, sauf qu'ils sont 7 ou 8 à se relayer. Donc il y a une réserve de vitesse du peloton qui est énorme, et logiquement ça ne doit pas aller au bout.
Très bien, voilà pour l'explication. Tiens, Julien sur le hashtag RMC Live nous dit un nouveau trophée Baraki. Hein, ça n'existe plus, le trophée Baraki.
Oui, je l'ai fait, je connais. Tu 110 fait. Km à deux, oui, contre la montre.
Exactement, c'était une belle épreuve qui n'existe plus aujourd'hui. Allez, on va se quitter quelques instants, laisser passer les infos de 15h. On vous rappelle, donc il y a deux hommes en tête, Tony Martin et Julien Alaphilippe, les deux coureurs de la formation Ethics Quickstep, qui possèdent 5 minutes 30 d'avance sur le peloton maillot jaune. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.